Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Gabriel Attal annonce sonne la mobilisation contre la violence des jeunes. Le Premier ministre annonce des mesures pour renforcer l'autorité à l'école en sanctionnant les élèves perturbateurs. Annonce martiale critiquée par les syndicats d'enseignants. Dossier dans ce journal. La préfecture du Nord interdit le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine qui était prévu ce soir à Lille. Nouveau revers pour le leader insoumis après une première annulation hier par l'Université de Lille. Le Burkina Faso expulse 3 diplomates français pour activités subversives. La junte burkinabé multiplie les sources de tensions avec la France. Enfin, le syndicat national de l'édition se mobilise contre la publicité pour les livres à la télévision. Le gouvernement vient d'autoriser à titre expérimental cette publicité pendant 2 ans. Mobilisation générale, sursaut d'autorité. Gabriel Attal a annoncé ce matin un plan global pour lutter contre la violence des jeunes. Il l'a fait à Viry-Châtillon dans le Val-de-Marne, une commune endeuillée par la mort de Chemseddine, ce garçon de 15 ans passé à tabac près de son collège il y a 2 semaines. Sur le plan judiciaire, le Premier ministre veut ouvrir un débat sur l'excuse de minorité qu'il voudrait atténuer. Il souhaite également responsabiliser davantage les parents sous peine de sanctions comme des travaux d'intervention. Intérêt général. Et puis, il y a le volet éducatif des annonces de Gabriel Attal. Héloïse Roger, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Le Premier ministre veut un véritable choc d'autorité à l'école.
Et cela passe par de nouvelles mesures dans les écoles, des mesures de bon sens, évoque-t-il pour certaines, voulues pour la rentrée prochaine.
Se lever dès qu'un professeur rentre dans la classe, faire participer l'ensemble des élèves, dès le plus jeune âge, aux tâches communes au sein de leur établissement scolaire.
Mais il est aussi question de sanctions.
Aujourd'hui, la violence s'invite trop souvent à l'école dès le plus jeune âge. Dès la rentrée prochaine, nous instaurons des commissions éducatives dès l'école primaire avec des sanctions adaptées à l'école primaire.
Sur ce volet, tout reste à construire, explique Matignon. Ce sera l'objet des concertations dans les prochaines semaines, le but étant de faire comprendre aux enfants l'impact de leurs actes. Pour les adolescents, toute violence commise de la part d'élèves ne sera plus sans conséquence, martèle le Premier ministre.
Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact.
Il y aura bien une condition pour effacer cette mention. Des travaux d'intérêt général seront proposés en mesure de réparation à l'élève. L'école doit rester un sanctuaire où la violence n'a jamais sa place, défend le Premier ministre qui annonce que 350 établissements scolaires supplémentaires verront leur sécurité renforcée, en plus des 150 qui ont déjà bénéficié de cette mesure. Gabriel Attal prévoit aussi de rendre obligatoire la scolarisation pour tous les collégiens en réseau d'éducation prioritaire entre 8h et 18h.
À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre.
Autre piste avancée, le recours à l'internat. Gabriel Attal y voit une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Il se rendra d'ailleurs dans un de ses établissements à Nice lundi avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.
Héloïse Roger, merci. Gabriel Attal, qui franchit aujourd'hui le cap des 100 jours à Matignon, a fait de l'école une priorité. Mais les mesures musclées de l'ancien ministre de l'Éducation sont loin de faire l'unanimité au sein de la communauté éducative. Julie Paco, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les syndicats d'enseignants réclament avant tout des moyens supplémentaires pour prévenir la violence à l'école.
Effectivement, c'est le cas par exemple dans le premier degré. Guylaine David, co-secrétaire générale du SNUIPPFSU, voit avant tout dans ce discours du Premier ministre de la communication politique qui traduit non pas le retour de l'autorité mais de l'autoritarisme à l'école, dit-elle, avec des enseignants mis une nouvelle fois à contribution.
C'est un discours qui, au bout de 45 minutes, va dire aux enseignants « débrouillez-vous ». Parce que oui, on doit pouvoir prendre en charge les difficultés des élèves, mais bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment d'adultes dans l'école. On n'a pas d'assistante sociale dans nos écoles primaires et on en aurait besoin. On n'a pas assez d'infirmières scolaires. Et donc, il faut plusieurs adultes qui encadrent ces élèves-là.
Et les mesures du chef du gouvernement axées sur la sanction au détriment de la prévention et de l'éducation étonnent jusqu'aux organisations réformistes, comme le SNPDEN, UNSA principale, syndicat des chefs d'établissement. Gwenaël Surel, son secrétaire adjoint.
Nous, SNPDEN, UNSA, pensons que la politique du hochement du menton et du claquement des talons n'a jamais fait ses preuves. Là, on est sur une vision sanction de la société, sur un diagnostic qui est très très loin d'être éducatif.
Gwenaëlle Surel, qui s'inquiète donc d'un changement de doctrine au sein de l'éducation nationale et d'une possible aussi confusion des genres, avec l'inscription d'éléments relevant du pénal dans le dossier scolaire des élèves dits perturbateurs. Des mesures donc esquissées par le Premier ministre qui méritent d'être retravaillées durant les 8 semaines de concertation avec les professionnels de l'éducation.
Julie Paco, merci. En Alsace, 2 fillettes ont été légèrement blessées aujourd'hui dans une attaque au couteau. L'agression a eu lieu près de leur école à Souffelweyersheim, dans la banlieue de Strasbourg. Les 2 fillettes âgées de 6 et 11 ans ont été hospitalisées en urgence pédiatrique pour des blessures superficielles. L'agresseur a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 29 ans, inconnu des services de police dont on ignore les motivations. La France insoumise dénonce un acharnement. Jean-Luc Mélenchon parle d'un abus de pouvoir de République bananière. À son tour, la préfecture du Nord interdit la conférence sur la Palestine qui était prévue ce soir à Lille. Conférence que le leader insoumis devait animer avec Rima Hassan, l'activiste franco-palestinienne, candidate sur la liste LFI aux européennes. Cet événement devait au départ avoir lieu à l'université de Lille, qu'il a annulé hier, estimant que la sérénité des débats n'était pas garantie. Plusieurs élus Renaissance, LR ou RN, réclamaient cette annulation, en cause notamment le logo de l'association organisatrice Libre Palestine, qui montre un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. LFI avait donc reprogrammé la conférence dans une autre salle à Lille, mais la préfecture a refusé, Rosalie Lafarge.
Le préfet du Nord avance 3 arguments. Un risque de trouble à l'ordre public dans un climat de tensions géopolitiques accrues, la mobilisation déjà exceptionnelle des forces de l'ordre, avec en plus du plan Vigipirate, la tenue d'un match de Coupe d'Europe de football dans moins d'une heure au stade Pierre-Mauroy et une commémoration au même moment à la synagogue de Lille. Et puis le fait que la nouvelle salle retenue ne permettrait pas d'accueillir autant de personnes qu'annoncées.
Sale temps pour la liberté d'expression.
Pour le député insoumis du Nord Hugo Bernalicis, cette décision est exclusivement politique.
Je plains le préfet de devoir mettre en œuvre les desiderata du ministre Darmanin de la sorte. Ce qu'il faut dire, de qui c'est la signature? C'est la signature de Renaissance qui est en difficulté pour sa campagne des Européens et qui espère là faire un bon coup contre les insoumis. Tout ça est extrêmement grave. Il est temps de se mobiliser sur le sujet.
Nous ne nous tairons pas, préviennent les insoumis soutenus à gauche. Olivier Faure, par exemple, au PS, dénonce un affront à la démocratie, mais aussi à l'autre bout du spectre politique. Éric Zemmour apporte son soutien à sa façon au chef de file des insoumis. Ce n'est pas, écrit le président de Reconquête, parce que Mélenchon est un ennemi islamo-gauchiste que l'on doit se mettre à approuver les méthodes qui sont justement celle des islamo-gauchistes, la censure, l'interdiction, le bâillonnement.
Rosalie Lafarge, la France insoumise qui appelle à un rassemblement contre la censure et pour la paix dans une petite demi-heure à 18h30 à Lille. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ont prévu d'y prendre la parole. La question palestinienne qui fait l'objet d'un vote aujourd'hui à l'ONU, le Conseil de sécurité doit débattre d'une résolution qui permettrait à la Palestine de devenir un État membre à part entière. Première étape d'un processus incertain qui se déroule en pleine guerre à Gaza et quelques jours après l'attaque iranienne sur Israël. Alors, question Étienne Monin, la Palestine a-t-elle une chance d'accéder à ce statut d'État membre de l'ONU ?
C'est peu probable. La démarche de la Palestine qui a été relayée par l'Algérie est avant tout symbolique. Pour devenir le 194e membre de l'ONU, il faut passer 2 étapes. D'abord obtenir 9 votes favorables sur 15 au Conseil de sécurité de l'ONU, puis une majorité des 2/3 devant l'Assemblée générale. La Palestine peut compter sur le soutien de l'Assemblée générale, mais elle devrait se heurter au veto des États-Unis dès le début de la procédure devant le Conseil de sécurité. Diplomatiquement, les États-Unis considèrent que la reconnaissance de la Palestine doit se faire dans le cadre d'un accord avec Israël qui y est aujourd'hui farouchement opposé. Et politiquement, l'Amérique devrait soutenir Tel Aviv dans ce dossier pour tenter de contenir la riposte de l'État hébreu après l'attaque iranienne. Ça n'est pas la première fois que la Palestine demande un siège de membre à l'ONU. La première requête remonte à 13 ans. À l'époque, elle n'avait pas abouti, mais elle avait ouvert la voie à l'adoption d'un statut d'État observateur non membre des Nations Nations Unies que la France avait soutenue. Plus d'une décennie après, ce sont toujours les mêmes dirigeants palestiniens qui portent la demande à bout de bras. Cela témoigne d'une absence totale de vitalité dans la démocratie à Ramallah. Mais cela permet au moins de faire émerger la question palestinienne qui reste occultée malgré la guerre à Gaza et qui risque de disparaître encore plus si la tension grimpe avec l'Iran.
Étienne Monin, et pour le secrétaire général de l'ONU, le Moyen-Orient est aujourd'hui au bord du précipice, au bord d'un conflit régional généralisé. Antonio Guterres parle d'une escalade dangereuse ces derniers jours. Il condamne à nouveau l'attaque iranienne sur Israël. Le patron des Nations Unies qui dénonce également, je cite, « l'enfer humanitaire créé par les opérations militaires israéliennes à Gaza ». La France n'est décidément plus la bienvenue au Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire en septembre 2022. Nouvel épisode aujourd'hui dans la crise entre les deux pays. Le Burkina a expulsé 3 diplomates français en poste à Ouagadougou. Motif invoqué, ils sont accusés de mener des activités subversives. Les explications de Nathanaël Charbonnier.
Cette fois, il s'agit de 3 diplomates français dont 2 sont enregistrés comme conseillers politiques. Ils sont donc déclarés persona non grata sur le territoire burkinabé. Officiellement, le ministère des Affaires étrangères leur reproche des activités subversives, ce qui veut tout et rien dire. Les diplomates auraient tenu des réunions avec des membres de la société civile. Une accusation en tout cas injustifiée si l'on en croit le porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine.
Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de ces agents. Le travail de ces diplomates et des personnels de notre ambassade à Ouagadougou, dont la France salue l'engagement et le grand professionnalisme, s'inscrit pleinement dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer.
La France qui déplore l'expulsion de ces diplomates et qui s'arrête là dans ses commentaires. Une façon de dire que cela ne mérite pas plus, tellement l'affaire est ridicule. Et cela d'autant que Paris n'attend plus rien des autorités burkinabées. Paris sait que le pays s'est tourné vers les Russes, dans la lignée de ce qui se passe au Mali ou encore au Niger, et d'une façon générale au Sahel. Pour la diplomatie française, la question est plutôt de savoir si le pays va sombrer dans la dictature pure et dure, ou si la population, sentant le danger, aura la force de réagir et de s'affronter aux militaires et à la junte au pouvoir.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France. Le Burkina Faso et le Mali voisins qui ont été frappés au début du mois par une vague de chaleur meurtrière du 1er au 5 avril. On a enregistré dans ces deux pays des températures supérieures à 45 degrés. Une canicule qui a provoqué plusieurs dizaines de morts. Véronique Robérot, bonsoir.
Bonsoir.
Selon le réseau WWA, World Weather Attribution, l'événement est lié au changement climatique d'origine humaine.
Oui, entre le 1er et le 5 avril, le WWA, réseau international de coopération scientifique, a pu observer que deux pays, vous l'avez dit particulièrement, avaient connu une vague de chaleur exceptionnelle, le Mali, le Burkina Faso, exceptionnelle autant par sa durée que par son intensité, avec un pic au Mali à 48,5 degrés. Et le rapport du WWA précise que cet épisode aurait été impossible sans une augmentation de la température globale de la planète due aux activités humaines qui s'établit à 1,2 degré aujourd'hui en moyenne. L'accord de Paris prévoit, je vous le rappelle, de limiter l'augmentation de la température du globe à 1,5 degré d'ici 2100. Or, on y est presque maintenant dans quelques années. Cette vague de chaleur intense de 5 jours dans le Sahel ne survient en principe qu'une fois tous les 200 ans, dit aussi le WWA, avec des conséquences, on l'a vu cette fois-ci, immédiatement graves, car même si les populations maliennes et burkinabées sont acclimatées à des températures élevées, cette vague de chaleur a provoqué une augmentation des hospitalisations et des décès. Également, des chiffres encore imprécis, dit le WWA, en l'absence de registres tenus précisément par les deux pays. Mais au centre hospitalier Gabriel Touré de Bamako, au Mali, un médecin dit avoir comptabilisé l'arrivée de 102 corps en 5 jours, dont la moitié avait au moins 60 ans ou plus. Dans un contexte particulier, il faut le rappeler quand même, c'était en plein ramadan et des coupures de courant ont limité à ce moment-là l'usage début avril des ventilateurs au moment donc de cette intense vague de chaleur.
Merci Véronique Robérot. L'Organisation mondiale de la santé redoute une éventuelle transmission de la grippe aviaire aux humains. Il n'y a pour l'instant aucun cas rapporté, mais face à la propagation de la souche H5N1 à de nouvelles espèces, l'OMS évoque publiquement son inquiétude. Jérémy Farrar, le scientifique en chef de l'organisation, a tenu ce matin une conférence de presse à Genève. Les explications d'Anne Lordanier.
Entre le début de l'année 2023 et le 1er avril 2024, l'OMS a enregistré 889 cas humains de grippe aviaire dans une vingtaine de pays. 463 personnes en sont mortes, ce qui donne un taux de mortalité extrêmement élevé, plus de 50%. Heureusement, le nombre de cas de transmission à l'homme reste faible, car c'est une maladie animale qui touche d'abord les oiseaux et les volailles. Mais depuis 3 ans, l'Europe subit une épidémie de grippe aviaire d'une ampleur inédite. Et ce qui inquiète l'OMS, c'est que le virus puisse s'adapter et qu'il commence à se transmettre d'homme à homme. Alors pour l'instant, il n'y a aucun cas répertorié. Pour améliorer la surveillance de cette épidémie de grippe aviaire, Santé publique France a mis en place un dispositif renforcé afin de détecter les cas de transmission à l'homme dans 4 régions pilotes. Des prélèvements respiratoires sont effectués chez les personnes exposées à un foyer de contamination, y compris quand elles n'ont pas de symptômes.
Anne Lordanier. Le Royaume-Uni souffre d'une pénurie de médicaments depuis le Brexit. Les stocks s'épuisent et les Britanniques doivent rationner leurs traitements. Une pénurie documentée par le Nuffield Trust, un cercle de réflexion spécialisé dans la santé. Il appelle le gouvernement à trouver en urgence des solutions. Laura Calmus nous appelle de Londres.
Wilson Tran est jeune pharmacien. En commençant sa carrière, il n'imaginait pas que la recherche de médicaments occuperait une grande partie de son travail.
On doit souvent commander et recommander les médicaments et attendre qu'ils arrivent, c'est forcément très frustrant. On perd aussi beaucoup de temps à appeler les pharmacies des environs parfois. Eh bien, on propose une alternative aux patients, on appelle le médecin pour demander une autre ordonnance.
Ces derniers mois, sa pharmacie a fait face à des pénuries de traitements hormonaux, d'antibiotiques et de médicaments pour l'épilepsie.
Les patients atteints d'épilepsie, par exemple, ne peuvent pas substituer leurs médicaments. Il faut toujours prendre la même marque ou le même type de médicament, ce qui complique forcément les choses.
Des médicaments qui ne circulent plus aussi facilement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Selon un rapport publié ce matin, les pénuries sont exacerbées par le Brexit. Le nombre de déclarations d'alerte de pénurie imminente a doublé en 3 ans, passant de 648 en 2020 à 1634 l'an dernier. Dans cette pharmacie, chaque client a une histoire à raconter, comme celle d'Annika, britannique d'origine autrichienne.
Je prends un médicament pour la tension artérielle et il était introuvable pendant 2 mois. J'ai dû me rendre à Vienne et demander au médecin qui me l'avait initialement prescrit et l'acheter sur place. Je ne sais pas comment les autres font.
Pour endiguer les pénuries, les experts encouragent le gouvernement à réviser le système d'approvisionnement et à mieux informer les professionnels de santé sur les alternatives disponibles.
Le reportage de Laura Calmus, correspondante au Royaume-Uni. Les éditeurs se mobilisent contre la publicité pour les livres à la télé. Un décret du 5 avril autorise cette publicité à titre expérimental pendant 2 ans. Dans un communiqué publié hier, le syndicat national de l'édition demande l'abrogation du texte. Le SNE qui redoute notamment un appauvrissement de la création littéraire au profit des best-sellers. Thomas Pinaroli, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le ministère de la Culture avait pourtant ouvert une consultation sur cette mesure. Il n'a visiblement pas tenu compte de l'avis des éditeurs.
Non, une consultation express de 2 semaines, pas assez approfondie selon les syndicats. Le problème pour le secteur, c'est que seules les grosses maisons d'édition ont les moyens de payer les emplacements publicitaires, et encore pas pour n'importe quel livre, seulement pour ceux qui sont les plus rentables. Les éditeurs, les auteurs, mais aussi les libraires craignent donc que les gros mangent les petits, avec par conséquent une baisse de diversité dans les rayons et peut-être même à terme une baisse de l'offre tout court. Renaud Lefebvre est le directeur général du syndicat national de l'édition.
Pour qu'un livre soit un best-seller, il faut souvent qu'il ait d'abord été un livre ayant connu une diffusion ou un auteur ayant connu à travers ses parutions précédentes des diffusions beaucoup plus confidentielles. Et donc, c'est tous ces équilibres subtils sur la filière de l'édition qui peuvent être contrariés.
Pour les éditeurs, cette mesure manque d'encadrement. Elle ne peut pas se suffire à elle-même. C'est une occasion ratée de repenser la place du livre à la télévision.
Elle devrait être ailleurs que dans des écrans publicitaires. Elle devrait être dans la mise en valeur du livre en général. Or, on n'a aucun engagement de la part des opérateurs de télévision pour faire des efforts particuliers dans cette direction et en faveur de la promotion du livre et de la lecture.
Le monde du livre soupçonne donc le gouvernement de surtout faire un cadeau aux chaînes de télé, elles qui peinent de plus en plus à trouver des annonceurs avec la concurrence des plateformes.
Thomas Pinaroli, merci. Un nouveau patron pour les musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris, Sylvain Amic, ancien directeur des musées de Rouen, a été choisi pour diriger les 2 institutions parisiennes. l'information du Figaro confirmée par l'AFP. Sylvain Amic succède à Orsay à Christophe Le Ribaud, nommé en février à la tête du château de Versailles. À Copenhague, la façade principale de l'ancienne bourse de la capitale danoise, ravagée mardi par un incendie, s'est effondrée cet après-midi. Il n'y a aucun blessé. La structure s'est effondrée vers l'intérieur du bâtiment dans un énorme grondement, selon les images des médias danois. Des conteneurs avaient pourtant été disposés le long de cette façade pour limiter ce risque d'écroulement. Un mot du temps demain, la France sera coupée en deux. Ciel perturbé et pluvieux au nord, avec de la neige sur les Vosges et le Jura. Au sud, un temps calme et ensoleillé. Les températures minimales sont en baisse, entre 0 et 5 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 8 et 21 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Ludovic Auger.